Les mystères du Palais Royal, cinquième partie. Chapitre 34. Les souterrains. Qu'on se figure d'immenses souterrains voûtés, dont les arceaux étaient soutenus de distance en distance par de lourds piliers de style roman. De profondes ténèbres envahissaient les parties reculées de ces souterrains. Le centre, au contraire, était vivement éclairé par de grandes lueurs rougeâtres, au milieu desquelles semblait s'agiter une bande de démons. Ici, de noires silhouettes, éclairées parfois par une flamme intermittente, activaient à l'aide de soufflets gigantesques le brasier d'un feu de forge. Là, d'autres figures d'apparence non moins fantastique remuaient le métal en fusion dans les creusets fumants. Ceux-ci faisaient passer les lingots aux laminoirs. Ceux-là présentaient aux balanciers des flancs tout préparés. C'était une activité étrange et en quelque sorte surnaturelle. Tous ces hommes semblaient apporter leur part de travail à une œuvre infernale. En même temps que Monsieur de la Tremblée, Émaude s'était arrêtée sur la dernière marche de l'escalier. « Qu'en dis-tu » demanda-t-elle à Raoul en lui montrant le spectacle bizarre que nous venons de décrire et qui, certes, eût tenté Salvator et Rembrandt. « C'est terrible et beau !» répondit Raoul. « Que penses-tu de tes sujets vus d'ici ?» « Je pense qu'ils ressemblent à des diables. »«
Un peu. »«
Oh, beaucoup !»« Ils ne sont pas si noirs qu'ils en ont l'air, je t'assure. Ce sont les plus braves gens du monde. »«
Ce ne serait point l'avis du lieutenant criminel, » dit Raoul en riant.
« Nous ne lui demanderons pas son opinion, » répondit Émeraude du même ton. Puis elle se remit à marcher. À mesure que la jeune femme et son amant avançaient, ils quittaient les ténèbres pour entrer dans une zone de plus en plus lumineuse. Bientôt, un des travailleurs les aperçut. Cet homme reconnut Émeraude et frappa dans ses mains. À ce signal, soufflets de forge, creusets, laminoirs et balanciers furent désertés. Les faux-monnayeurs accoururent au-devant d'Émeraude, qui fut traitée par eux véritablement comme une reine. « Mes amis, » dit-elle après avoir témoigné sa reconnaissance de la petite ovation dont elle venait d'être l'objet. « Mes amis, nous sommes en France. » Où les femmes ne portent point la couronne. Ma main d'ailleurs est trop faible pour vous diriger plus longtemps. Il vous faut un chef et un maître. Ce chef et ce maître, je l'ai trouvé. J'abdique. Je remets mon pouvoir entre ses mains. Saluez mon successeur. Obéissez-lui comme à moi-même. Le voici. C'est le chevalier Raoul de la Tremblée.
Vive Monsieur de la Tremblée ! Crièrent toutes les voix. « Vive le nouveau chef des chevaliers de la fausse monnaie !»
Raoul, en quelques mots, remercia ces braves gens de l'honneur qu'ils voulaient bien lui faire et promit de s'en montrer digne, en ne négligeant rien de ce qui pourrait rendre l'association florissante. Puis Émeraude fit un signe à un jeune garçon qui se trouvait là et qui, détachant de la muraille une torche, se mit en devoir d'accompagner Raoul et la jeune femme dans l'excursion qu'ils continuaient à travers les souterrains. Émeraude ouvrit successivement plusieurs portes de fer pratiquées dans les murailles épaisses. La première conduisait dans les anciens cachots du château, encombrés encore d'instruments de supplice, de chaînes et de carcans rongés par la rouille. Une autre donnait accès dans une sorte de magasin où des tonneaux debout et défoncés étaient remplis de pièces d'or. Quand elle fut ouverte, il vit, à une distance de 20 pas à peu près, une haute et lourde grille de fer dont les barreaux massifs montaient depuis les dalles jusqu'à la voûte. Entre ces barreaux passaient les gueules évasées de 2 petits canons de bronze montés sur des affûts légers.
« Qu'est-ce donc que cette artillerie ?» demanda Raoul. « Et à quoi peut-elle servir dans cette situation souterraine ?»«
À rien, sans doute, » répondit Émeraude. « Mais tous les cas ont dû être prévus, même les plus invraisemblables. »
« Enfin !» Ces cas invraisemblables, quels sont-ils?
Admettons que, par impossible, l'éveil soit donné au lieutenant de police. Admettons que les plus adroits limiers de ce digne magistrat découvrent la piste des chevaliers de la fausse monnaie. Admettons qu'une escouade d'estaffiers et d'exemples arrive au château de la Baume. Admettons que cette escouade découvre le secret des souterrains et y fasse invasion à l'improviste. Tu vois que, franchement, il faut une bonne volonté robuste pour admettre tout cela. Eh bien,
Ce cas inadmissible échéant, il nous serait encore cependant facile de nous en tirer.
« Et comment ?» demanda Raoul.
« Derrière cette grille s'ouvre une issue mystérieuse, longue de près d'une lieue, et qui, après de nombreux détours, communique avec une excavation rocailleuse, encombrée de broussailles et de lichens, et située au milieu des bois. Une décharge de ces petits canons balayerait une bonne partie des suppôts de la police. Et avant que le reste eût entrepris seulement de forcer la grille, nous aurions gagné la campagne et nous serions en sûreté.
Admirable ! Tu vois que les mauvaises chances sont à peu près nulles.
Je le vois et j'admire cette habileté surprenante.
Maintenant, si tu veux, nous remonterons chez nous.
Je ne demande pas mieux, car franchement, l'air de ces souterrains m'oppresse. Les deux jeunes gens regagnèrent le premier étage de la tour carrée par l'escalier de granit et grâce à l'échelle de fer. Là, ils s'installèrent au coin d'un bon feu et Émeraude entra avec Raoul dans une foule de détails qu'il serait trop long de rapporter ici. Elle lui apprit, entre autres choses, qu'une cuisine avait été pratiquée dans la partie des anciennes caves du château qui s'étendait sous la tour carrée et qu'une maisonnette, ayant toute l'apparence d'une pauvre chaumière, et située à un demi-quart de lieue, servait à loger les voitures, les chevaux et ceux des domestiques auxquels la prudence permettait de se confier. La pendule d'écaille rouge, incrustée de nacre et de cuivre, indiquait 11h30. Le temps, assez beau pendant toute la journée, était tout d'un coup devenu mauvais. Un vent impétueux sifflait à travers les ruines, chassant des tourbillons de neige contre les fenêtres à petits carreaux. Par instants et durant quelques secondes, la grande voix de la tempête cessait de se faire entendre, puis soudain, elle reprenait avec une intensité nouvelle. Le vent faisait rage en imitant les sinistres grondements de la foudre et semblait, dans ses efforts convulsifs, ébranler sur sa base le donjon séculaire.
« Quel temps !» murmura Émeraude en se pelotonnant frileusement dans sa chauffeuse.
« Un temps diabolique !» appuya Raoul. « On dirait que l'enfer se déchaîne et veut ne pas laisser cette nuit pierre sur pierre du vieux manoir.
L'enfer, répondit Émeraude en riant,
l'enfer aurait tort de malmener ainsi sa propriété.
Que veux-tu dire?
Je veux dire que le château maudit appartient incontestablement au diable. Demande plutôt au premier paysan que tu rencontreras d'ici à 4 ou 5 lieues à la ronde, et même au premier bourgeois venu de la bonne ville de Saint-Germain. Ces braves gens ne te parleront du château maudit qu'avec un grand signe de croix.
Tu sais, chère Émeraude, fit Raoul, que tu m'as promis quelque chose.
Quoi donc?
Une légende, celle de ce château.
Et je suis prête à tenir ma promesse, d'autant plus que l'heure est favorable et que cette nocturne tempête semble improvisée tout exprès pour ajouter à l'effet de mon récit.
La légende en question expliquerait-elle le surnom donné au château?
À peu près.
« Est-elle longue ?»«
Oh, non !» répondit Émeraude en souriant.
« Sois tranquille, elle est fort courte. »«
Tant pis, je t'ai prévenu que j'adorais le merveilleux, ou plutôt le fantastique. »«
Alors, tu seras servi à souhait. Rien au monde n'est plus invraisemblable que ce que je vais te raconter. »«
100 fois tant mieux. Rien n'est aussi ennuyeux que la vraisemblance. »«
Es-tu prêt ?»«
J'écoute. »
Et moi, je commence. »
Et s'accoudant au bras rembourré de sa chauffeuse, Émeraude commença en effet.
Chapitre 35. La légende. Il y a longtemps de cela, dit-elle. Ne me demande pas, mon Raoul, de fixer une date, car cette date je l'ignore. Et ceux qui m'ont raconté la légende l'ignoraient comme moi, sans doute. Du moins, s'ils la savaient, ils ne me l'ont pas dite. Le comte de la Baume, beau vieillard et digne gentilhomme, habitait ce château avec son fils aîné, le vicomte Albéric. Le comte de la Baume n'avait que 2 enfants. Philippe, son second fils, auquel il avait acheté une compagnie dans Royal-Bourgogne, était un fort mauvais sujet, donnant seulement de ses nouvelles pour demander de l'argent, que dans sa bonté inépuisable, le vieux comte ne manquait jamais de lui envoyer. On ne pouvait rien imaginer de plus triste que l'intérieur du château. Le vieillard ne se consolait pas de la mort de sa femme. Madame de la Baume avait quitté ce monde depuis bientôt 10 ans, et le comte, comme au premier jour, portait le deuil dans son cœur et sur ses vêtements. Le vicomte Albéric avait près de 30 ans. C'était un beau cavalier, d'un caractère mélancolique, taciturne, presque sauvage. Il détestait et fuyait le monde. Jamais les conseils, et presque les ordres de son père, n'avaient pu le déterminer à se présenter à la cour. Cet étrange jeune homme n'avait d'ardeur que pour 2 choses en ce monde, la science et la chasse. Quant à ce sentiment qui s'appelle l'amour, il n'en connaissait l'existence que par ses livres. Le comte et le vicomte se voyaient aux heures des repas, échangeaient à peine quelques paroles et se séparaient. Tout ceci constituait une existence horriblement monotone. Depuis longtemps, les gentilshommes des environs avaient cessé de faire au château des visites qui ne leur étaient jamais rendues. D'ailleurs, une pesante atmosphère d'ennui enveloppait le vieux manoir. Rien qu'à voir le sommet de ses tours crénelées, les moindres obereaux bâillaient. Un jour, la lourde monotonie de cette existence fut soudainement rompue. Une lettre arriva pour le comte. La main du vieillard eut un tremblement fébrile en rompant le cachet. Cette lettre était signée Henri de la Baume. Cet Henri était le frère cadet du comte, qui comptait au moins 20 ans de plus que lui. Ce dernier rejeton de la grande souche de la Baume avait obstinément refusé jadis d'entrer dans les ordres ou de prêter les vœux des chevaliers de Malte. Le motif de ce refus, qui avait indisposé contre lui toute sa famille, à l'exception seulement de son frère aîné, était un violent amour éprouvé par Henri pour une jeune fille de noblesse qu'on voulait à toute force faire religieuse. La jeune fille n'avait pas de dot, Henri de la Baume ne possédait que sa mince fortune légitime. Malgré cela, ils se marièrent et s'en allèrent vivre obscurément en quelque village inconnu. À son grand regret, depuis 20 ans, le comte de la Baume n'avait point entendu parler de son jeune frère, qu'il avait toujours aimé tendrement. Il venait de reconnaître l'écriture de ce frère sur l'adresse de la lettre. D'ailleurs, les armes de la Baume en timbraient le cachet. Voilà pourquoi, en brisant ce cachet, la main du vieillard avait tremblé. La lettre contenait ces lignes. « Mon frère, je connais ton cœur et je ne doute point de ton affection pour moi. Je sais que tu serais venu à mon aide avec bonheur, au milieu des douleurs et des misères de ma vie, si un déplorable sentiment d'orgueil ne m'avait toujours empêché de m'adresser à toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Bien tard, hélas. Je vais mourir. J'ai une fille, ma Blanche bien-aimée, à 16 ans. C'est un ange de beauté, un ange de pureté, un ange de douceur. La pauvre enfant n'a jamais connu sa mère, morte en lui donnant le jour. Elle va donc se trouver doublement orpheline. Mon frère, je te lègue ma fille. À peine me reste-t-il quelques jours à vivre. Mets-toi donc en route aussitôt que ma lettre te sera parvenue, car je suis épouvantée par cette pensée que ma fille chérie pourrait se trouver seule avec mon cadavre, ne fût-ce que pendant 1 heure. » Henri de la Baume donnait ensuite à son frère le nom du village dans lequel il vivait avec sa fille et qui était distant de Paris d'une 20aine de lieues. Aussitôt que le comte eut achevé sa lecture, non sans que plus d'une larme se fût échappée de ses paupières, il demanda monsieur le vicomte. On lui répondit que monsieur le vicomte était à la chasse. « Alors, dit le comte, qu'on mette à l'instant même des chevaux à ma voiture de voyage. Je pars dans 1 heure. » Cet ordre fut exécuté sur le champ. Au moment où le vieux gentilhomme franchissait le marchepied de son carrosse, l'intendant lui demanda « Monsieur le comte n'a-t-il aucun ordre à laisser pour monsieur le vicomte ?»« Vous lui direz, répliqua le vieillard, que je reviendrai dans peu de jours et que je ramènerai avec moi sa cousine germaine, mademoiselle Blanche de la Baume. » Puis le carrosse s'ébranla. Lorsque les dernières paroles de son père furent rapportées au vicomte Albéric, elles lui causèrent la sensation la plus désagréable qu'il soit possible d'imaginer. « Une femme ? Quoi ? Une femme allait venir s'installer au château ?» Rien au monde de plus effrayant en effet. La nouvelle venue allait le débusquer, forcément, de ses habitudes de sauvagerie et de laisser aller.
Il se verrait contraint de se montrer poli et empressé, galant peut-être. Il lui faudrait, avant chaque repas, surveiller les moindres détails de son costume, dont les ardeurs de l'étude et surtout celles de la chasse compromettaient souvent la correction. Le vicomte Albéric se dit tout cela et bien d'autres choses encore. Puis, comme le mal était inévitable et sans remède, il se résigna et attendit l'ennemi de pied ferme. L'ennemi, c'était sa cousine. Vers le soir du sixième jour, Albéric, qui travaillait dans la bibliothèque, entendit le bruit d'un carrosse roulant sur les pavés de la cour. « Ah !» murmura-t-il avec un secret espoir. « Si mon père pouvait être seul !» Et il descendit rapidement. Espoir déçu. Monsieur de la Baume n'était pas seul. Il donnait la main à une jeune fille entièrement vêtue de noir. « Ma chère Blanche, lui dit-il en désignant Albéric, qui s'arrêtait tout interdit à l'entrée du vestibule, « voici mon fils aîné, votre cousin. Allons, mes enfants, embrassez-vous. » Blanche fit aussitôt quelques pas en avant avec une candeur pleine de grâce. Le jeune homme comprit combien il serait ridicule en reculant ou seulement en hésitant. Il s'approcha donc, et selon l'ordre de son père, il embrassa sa cousine, mais sans l'avoir regardée. Chapitre 36 Amour. Blanche de la Baume, continua Émeraude, était non seulement belle, mais charmante. L'éclatante blancheur de son teint la rendait digne de son nom. Une légère teinte rosée venait à peine sur les joues nuancer cette blancheur. Les cheveux et les yeux de la jeune fille étaient noirs. Ses vêtements de deuil faisaient ressortir les proportions charmantes et l'exquise élégance de sa taille, un peu au-dessous de la moyenne. À tant d'attraits se joignait une grâce sans pareille et la plus adorable simplicité. Henri de la Baume, en mourant, n'avait point exagéré les qualités précieuses de sa fille unique. Blanche était bonne autant que belle, et rien, pas même en rêve, n'avait troublé la virginale pureté de son cœur et de son âme. Inévitable résultat de la présence de la jeune fille au château ne se fit point attendre. Ce résultat fut un violent amour dans le cœur, jusqu'alors insensible, du farouche Albéric. Cet amour, inconnu d'abord de celui-même qui le ressentait, grandit par gradation insensible. D'abord, Albéric fut étonné de voir qu'au lieu de l'écrasant ennui qu'il avait redouté, il trouvait un plaisir infini dans la société de sa cousine. Bientôt, il ne put plus se passer de cette société. L'étude fut négligée, puis abandonnée tout à fait. La chasse eut son tour. Les in-folios lourds et les fusils luisants n'offraient plus au comte le moindre intérêt. Il ne vivait désormais que pour écouter avec ravissement la voix si douce de sa cousine. Il montait à cheval avec Blanche, il l'accompagnait dans ses promenades à travers le parc. Enfin, il la quittait le moins possible, et les heures pendant lesquelles il était obligé de se séparer d'elle lui semblaient d'une longueur désespérante. Cependant, je le répète, Albéric prenait pour une vive et profonde affection fraternelle le sentiment qu'il éprouvait pour sa cousine. Le vieux comte de la Baume connaissait mieux le monde, et surtout le cœur humain. Il ne se trompa point sur la nature de ce sentiment. Un jour, 8 ou 10 mois après la mort du père de Blanche, il fit prier Albéric de passer dans sa chambre. Le vicomte obéit aussitôt. « Mon fils, lui dit le vieillard, ne vous doutez-vous point du sujet dont je veux m'entretenir avec vous ?»«
En aucune façon, mon père. »«
Bien vrai, je vous le jure. »«
Dans ce cas, je vais m'expliquer mieux. »«
Voici que vous allez avoir 30 ans. Vous êtes en qualité de fils aîné, l'héritier de mes titres et de ma fortune. » Je veux vous marier. » Albéric pâlit involontairement. Pour la première fois, une idée terrifiante se glissa comme un éclair dans les ténèbres de son esprit. Un mariage le séparerait de Blanche. Cette pensée fut toute une révélation.
« Je veux vous marier, » répéta le comte.
« Mon père, » balbutia Albéric, « rien ne presse.
Cela est fort pressant, au contraire, et je ne consentirai point à remettre.
« Mais pourquoi ? Il me semble, mon père, qu'à 30 ans, je suis jeune encore. »«
Vous êtes jeune, d'accord.
Eh bien,
mais moi je suis vieux.
Vous êtes plein de force et de santé, mon père.
Sans doute, mais d'un jour à l'autre, force et santé peuvent me manquer.
Or, avant de mourir, je veux avoir un petit-fils.
Mais, hasarda timidement Albéric.
Je veux, répéta impérieusement le vieillard.
Albéric baissa la tête et ne répondit pas.
Monsieur de la Baume reprit.
J'ai fait choix pour vous, d'une femme.
Même silence de la part du vicomte.
N'êtes-vous point curieux de savoir son nom ? Demanda le vieillard.
Et que m'importe ? Murmura Albéric avec amertume.
Cette femme, je ne la connais pas.
C'est ce qui vous trompe, monsieur mon fils.
Je la connais ? S'écria le jeune homme.
Oui, certes, et beaucoup.
Les yeux du vicomte étincelèrent.
Mais, mon père, balbutia-t-il, songez-vous bien à ce que vous dites ? Je connais, dites-vous, celle que vous me destinez ?
Et vous savez aussi bien que moi, cependant, que je ne connais qu'une femme.
Qui prétend le contraire ?
Ainsi, Blanche, ma cousine Blanche.
Refuseriez-vous de l'épouser par hasard ? Demanda le vieillard avec un sourire malicieux.
Refuser ? Refuser ? Quand au contraire je craignais.
Quoi donc ?
D'autres projets de votre part, et une opposition vive à mon mariage avec ma cousine.
Et pourquoi m'y serais-je opposée ?
Blanche est pauvre.
Qu'importe, sa noblesse est sans tache, puisque mon pauvre frère avait épousé une fille bien née.
Vous êtes d'ailleurs, mon fils, assez riche pour deux, et cette nièce me convient.
Je ne sais de quelle façon vous remercier dignement, mon père.
Vous aimez donc votre cousine ?
Éperdument,
et sans le savoir.
C'était la crainte de me voir séparée d'elle par un autre mariage qui tout à l'heure vient de m'ouvrir les yeux.
Et pensez-vous que Blanche vous aime ?
D'une chaste et tendre affection de sœur, j'en suis sûre.
Et bientôt, j'espère, d'un amour de fiancée.
C'est au mieux. Je vais m'entretenir avec Blanche à ce sujet. Nous fixerons ensuite l'époque de votre union.
Cette époque sera-t-elle bien éloignée ?
Non. Je pense qu'aussitôt que Blanche ne portera plus le deuil de mon pauvre frère, votre mariage sera célébré.
4 mois encore ? S'écria Albéric.
C'est bien long.
Le vieux comte ne répondit que par un sourire.
À partir de ce jour, Albéric et Blanche furent fiancés.
Ainsi que l'avait dit le vicomte à son père, un amour naïf et charmant ne tarda guère à remplacer la tendresse de sœur dans l'âme aimante de la jeune fille. Jusqu'alors, elle avait vu Albéric comme un cousin. Maintenant, elle le vit comme un époux. Quoique l'attente semblât longue, aux amoureux surtout, les semaines et les jours passèrent rapidement dans les délices d'une douce et confiante intimité. L'époque fixée par le comte approchait. 3 mois s'étaient écoulés. Il n'en restait plus qu'un avant le mariage. Rien au monde ne semblait pouvoir troubler le bonheur si prochain. Le ciel était pur et sans nuages. L'orage se formait cependant, et la foudre allait bientôt gronder. La fin du mois de décembre était proche. C'était le soir. Au dehors, bruissait une tempête, semblable à celle qui se déchaîne autour de nous cette nuit. Le vieillard et les 2 jeunes gens étaient assis devant un grand feu qui brûlait dans l'immense cheminée du salon. Albéric et Blanche faisaient de délicieux projets et bâtissaient les plus beaux châteaux en Espagne. Monsieur de la Baume les écoutait en souriant. Le timbre sonore d'une haute pendule venait de frapper 11 heures. Soudain, on entendit sonner fortement à la porte extérieure du château. Le comte tressaillit.
« À cette heure, et par un temps pareil, qui peut venir » murmura-t-il.
La réponse à cette question ne se fit pas attendre longtemps. Au bout de quelques minutes, un bruit de pas rapide et de bottes éperonnées retentit dans l'antichambre. La porte s'ouvrit. Un nouveau venu entra, ou plutôt se précipita dans le salon en s'écriant
« Quoiqu'on ne m'attende point ici, je pense que cependant j'y serai le bienvenu. »
Un fils est toujours le bienvenu sous le toit de son père, même quand il le mérite peu, répondit le comte avec une lenteur solennelle.
et il tendit à l'arrivant une main que ce dernier porta assez cavalièrement à ses lèvres.
« Bonjour, mon père, » dit-il ensuite.
Puis il s'inclina devant Blanche.
« Mademoiselle de la Baume, votre cousine, » fit le vieillard.
L'arrivant s'inclina pour la seconde fois et son regard exprimait une admiration manifeste. Ce nouveau venu, si peu attendu, était, on l'a déjà compris, Philippe de la Baume, le cadet de la famille. Philippe portait l'uniforme de son régiment. Toutes celles des parties de son costume qui n'avaient point été mises à l'abri de la tempête par son vaste manteau étaient littéralement ruisselantes d'eau, car il était venu à cheval. La boue marbrait ses bottes à éperons d'argent.